Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hello, bienvenue sur le podcast Intention. Je suis Isadora et moi Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors, vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire, mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous une vie saine c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel. À travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement, vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Coucou Isadora, coucou à tous et à toutes On espère que vous allez bien et que vous êtes heureux de nous entendre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode sur mon parcours avec la maladie de Crohn, parce que c'est une question qui revient très souvent sur les réseaux sociaux, encore plus ces derniers temps, puisque j'avais partagé avec vous ma coloscopie il y a quelques semaines, donc j'ai eu encore beaucoup de questions en me disant « Isadora, est-ce que tu peux faire un épisode ou une vidéo ou en tout cas nous parler de la maladie de Crohn ?» Chose que je n'ai jamais faite, c'est vrai, en 8 ans ou en 7 ans sur les réseaux sociaux. J'ai fait tout un épisode, non, c'était plutôt une vidéo YouTube sur les angoisses. Je vous mettrai tout ça dans le lien en description. Donc c'est plutôt pas mal de regarder parce que vous verrez un petit peu ma personnalité et un peu qui je suis dans cette vidéo-là. Mais j'ai jamais fait vraiment un endroit où on parlerait de cette maladie de Crohn. Donc c'est aujourd'hui qu'on va le faire à deux avec Marisa aujourd'hui.
Oui, parce qu'on ne trouvait pas ça forcément. On disait qu'il y a peu de gens qui sont atteints. Pourquoi faire des choses qui ne parlent pas à la majorité? Mais en fait, quand on voit, vous êtes très nombreuses quand même. Encore hier, je regardais dans nos MP. Là, on est lundi. Dimanche, il y a une personne qui nous demande encore est-ce qu'Isadora peut faire une vidéo sur le sujet de la maladie de Crohn? Donc là, j'ai fait oui, on va vraiment le faire. C'est vraiment important. Comme ça, une fois qu'il est fait, eh ben, on pourra toujours rediriger... vous rediriger si quelqu'un pose une question directement sur cet épisode.
Et puis c'est intéressant parce qu'au-delà de la maladie de Crohn, je vais parler de mon parcours de la maladie de Crohn, mais ça peut parler à tout autre type de maladie quand on comprend d'où vient sa maladie après. C'est vrai que ça peut parler pour n'importe quel type de maladie, qu'elle soit comme moi auto-immune ou qu'elle soit d'un tout autre ordre.
Parce que l'idée de cet épisode, c'est de parler du parcours d'Isadora, mais aussi de parler de... Comment se soigner, en tout cas, comment nous, on voit le soin et aussi comment prendre soin de soi avant d'avoir les maladies, ça c'est important. Et pourquoi on a voulu faire cet épisode? Premièrement parce que vous avez été très nombreux à demander, mais également parce que Isadora, comme elle disait, elle a fait récemment une coloscopie, on va en parler, et en fait le résultat était tellement incroyable que moi, c'est même moi qui ai dit à Isadora directement, Isadora, il faut qu'on en fasse un épisode de podcast parce que ça peut vraiment illuminer des gens pour leur faire comprendre que comment Isadora s'est soignée, ça peut aider les gens de l'entendre, de voir un témoignage d'une personne qui est guérie de ça. Et en plus, comme on aime beaucoup les synchronicités, les choses qui sont écrites sans être écrites, c'est que la dernière fois, je suis partie, je dis à Isadora, viens, on fait un épisode de podcast bientôt sur ce sujet. Et je vais à la médiathèque pour me chercher un livre. Et là, directement, en nouveauté sur le présentoir à la médiathèque, en nouveauté, un livre sur comment j'ai guéri la maladie de Crohn. Incroyable. Et donc, j'ai envoyé une photo à Isadora en disant « Mais incroyable, regarde, il y a même des gens qui ont fondé le livre. » Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse quand même. Et Isadora, je sors de la médiathèque. Isadora me dit « J'espère que tu l'as pris. » Ah non, je lui fais, ah non, désolée, j'ai pas pris le livre, je savais pas que ça serait, que ça t'intéresserait. Et donc, la semaine suivante, j'y retourne à la médiathèque pour prendre le livre et on me dit, ah non, il a été pris immédiatement. Attends, là, je me dis, attends. T'es en train de me dire qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par cette nouveauté et qui l'ont pris immédiatement? Et là, à ce jour, j'attends encore qu'on me... Parce que je l'ai commandé, du coup, j'attends encore de recevoir un mail. Parce qu'à ce jour, il n'a toujours pas été rendu. Et donc, je me dis, finalement, la maladie de Crohn, c'est une maladie qui, je pense, c'est un peu un mal du siècle aussi, et qui peut vraiment... qui parle à beaucoup de gens. Donc, et en plus, on en a parlé avec une personne de notre entourage, on ne savait pas qu'elle avait la maladie de Crohn. Et en fait, elle nous annonce qu'elle a la maladie de Crohn depuis des années. Et on était là, mais on ne savait même pas. Non. Donc c'est incroyable. Donc c'est quand même un véritable sujet.
C'est vrai que moi, j'en parle jamais parce que j'oublie que je l'ai. Donc quand on me pose la question, à chaque fois qu'on me pose la question, je suis là, ah oui, attendez, c'est vrai que je suis la nana des réseaux sociaux qui a la maladie de Crohn. Mais pour moi, je n'y pense tellement jamais à cette maladie que j'oublie que je l'ai dans mon quotidien. Ce n'est pas quelque chose que je vais dire. Et je m'en rends compte notamment quand je vais chez des médecins. Ils vont toujours vous demander, vous savez, quand vous êtes tombée enceinte ou quoi, est-ce que vous avez des pathologies, etc. Moi, ma première réponse est toujours non. Parce que moi, j'ai toujours été une personne qui n'a jamais eu quoi que ce soit, à part un rhume, quoi. Donc, ma réponse est toujours non. Et c'est souvent une fois qu'elle a barré la personne, comme par exemple ma sage-femme, elle barre. Et je dis, oh, pardon, j'ai oublié de dire que j'avais la maladie de Crohn.
Ah, mais ça change tout, là.
Et donc, elle me regarde, elle fait, bah, c'est donc une pathologie. Ah oui, mais j'oublie. J'oublie. À chaque fois, il faut que j'explique pourquoi tu oublies, parce que nanana. Donc, c'est ce que je vais expliquer un petit peu ici, sans rentrer dans des détails incroyablement scientifiques, puisque personnellement, je ne les connais pas. C'est plus pour vous raconter, moi, un petit peu mon parcours.
Donc, déjà, commençons du début, du début, du début. Mm-hmm. Toi, comme je disais, c'était une personne qui n'avait pas de maladie, comme moi. En général, nous, on est une famille plutôt assez... on n'a pas trop de maladies, en règle générale. À quel moment tu te rends compte que tu as un souci? Quels ont été les premiers symptômes qui te font dire « il faut que j'aille consulter quelqu'un, quelque chose, parce que ça ne va pas ?»
C'était en 2014 qu'on m'a annoncé que j'avais la maladie de Crohn. Donc, c'est il y a 8 ans, c'était en septembre 2014. Je pense que déjà, j'avais un terrain de base avec des problèmes au ventre, puisque depuis toujours, j'ai un souci avec le ventre. Je me sens très souvent ballonnée, je peux avoir des périodes de diarrhée, des choses comme ça. Donc, j'ai toujours eu un souci au ventre, mais comme on est dans une famille chez nous où on a tous des problèmes avec le ventre, enfin, en tout cas, des problèmes pas en mode pathologie, mais on a très souvent cette phrase, que ce soit Karine, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, « Ah, j'ai un petit peu mal au ventre. » On est très sensible au niveau du ventre. Quand on mange beaucoup, par exemple, tous, on va se dire « on a mal au ventre ».
Nous, on est des personnes qui devront vraiment prendre soin de notre microbiote, mais on va en parler au fur et à mesure de l'épisode. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, c'est quelque chose qui n'est pas dit. C'est pas à quelqu'un qui va dire « t'as un microbiote un petit peu déséquilibré en ce moment, toi, non ?» Ça se voit. Non, on dit pas ça aux gens, mais pour autant, nous, on sait qu'on est une famille où on doit chouchouter, que ce soit notre neveu, que ce soit notre grande sœur, que ce soit Isadora et moi, que ce soit notre maman, on doit chouchouter notre microbiote. Mais ça, on ne savait pas avant.
Non, on ne savait pas avant.
On se disait qu'on avait des problèmes de ventre.
On avait des problèmes de ventre. Et ce qui est drôle, c'est que ce qui est récurrent pour tous les membres de la famille, c'est qu'on a tous des petits soucis au niveau du ventre, mais on a tous également une part d'angoisse en nous. Ça qui est assez drôle. Chacun a son niveau. Moi, si vous voyez ma vidéo, j'ai un niveau qui est, on va dire, le plus extrême de ma famille, à ne pas sortir de chez moi, etc. Mais pour d'autres, c'est quand même tous, on a des petits soucis d'angoisse, de petites dépressions, des choses comme ça. Donc, j'ai toujours eu ce petit truc au ventre, mais ça ne m'a jamais...
Ça ne gâche pas la vie. Ça ne gâche pas la
non,
vie.
Ça n'a jamais gâché la vie. J'ai eu mes angoisses. Donc mes angoisses, ça remonte à, je sais pas, 2011, 2012, je sais plus trop. J'ai eu mes angoisses et c'est là que mes problèmes de ventre ont été plus importants. C'est maintenant que je le dis, parce qu'à l'époque, je voyais pas le lien du tout. Là, je le dis parce que je sais que dès que j'avais des angoisses, j'avais très mal au ventre. Mais pour moi, c'était normal. J'ai une crise d'angoisse, j'ai mal au ventre parce que, comme tout un chacun, quand on a un stress... Je sais pas, on va passer un examen, on peut aller faire caca plein de fois. On va passer le permis de conduire, on a mal au ventre, on fait de la diarrhée, tu vois. Donc pour moi, c'était, je voyais pas le rapport.
Mais juste pour revenir sur le sujet des angoisses, rapidement, tu te souvenais plus à quelle date tu as commencé à les avoir? C'est quand tu es revenu de Mende. Est-ce que tu peux juste rapidement expliquer quelle était ta vie avant, quelle était ta vie après, enfin comment ça a été déclenché tout ça?
Alors les angoisses, moi j'habitais à Paris. Avec ma petite famille, Marisa, mes parents, etc. Et j'étais vraiment la parisienne qui partait tout le temps dans le métro, prenait sa voiture pour aller à droite et à gauche. Non, pas à l'époque, j'avais pas de voiture. J'étais vraiment très...
Oui, t'avais ma voiture. Oui, oui.
j'étais vraiment très active.
Oui.
J'étais à l'université à Paris et nous, on vivait en banlieue, donc il fallait toujours aller à Paris.
Tu voyais les copains, amis. Les copines.
Après, ce qui est drôle par rapport à toi, par exemple, j'ai toujours eu mes amis, etc. Mais moi, j'étais jamais quelqu'un qui aimait sortir, par exemple. Mais ça aussi, maintenant, j'ai 34 ans et je me rends compte que je suis quelqu'un de casanier. Mais à l'époque, j'étais une Parisienne qui pensait que j'étais la Parisienne qui adorait sortir, alors qu'en fait, j'ai jamais vraiment aimé ça. Après, j'ai fait mes études. J'ai fait mes études à la Sorbonne et ensuite j'ai fait un an à Mende en Lozère, donc c'est le plus petit département de France, en tout cas à l'époque. Est-ce que ça a changé? Je ne crois pas, mais bon. Dans un tout petit village, donc Mende, c'est le chef-lieu, donc petite ville. Je suis restée 7 mois pour mes études, c'était pour une licence professionnelle, et je suis retournée à Paris pour faire mon stage.
Est-ce que tu avais aimé la vie à
Mende? J'ai adoré la vie à Mende.
Parce que tu as été une vraie Parisienne, donc oui. Ça pourrait être un choc d'arriver dans une ville aussi, dans un bled.
Ce qui est drôle, c'est que quand on m'a dit que j'étais prise, ça a été un choc pour moi de me dire « Putain, je pars dans le 48 ». Je ne connaissais même pas le 48, je ne savais même pas que ça existait. Moi, je suis du 78, donc 48, pour moi, je ne connais pas. Lozère, je suis allée voir les photos sur Google Images et je vois une cité un peu médiévale et tout. Et là, je me suis dit « Mais moi, je suis une fervente passionnée d'histoire. J'ai fait des études d'histoire, j'ai une licence d'histoire. » Donc, je trouvais ça bien sur le côté « Ouais, je vais aller dans une ville historique. » Mais à côté de ça, je me disais « Je vais m'emmerder comme un rat mort. Qu'est-ce qu'on fout en banlieue ?»
Surtout que nous, qu'est-ce qu'on fout en province. C'est vrai que nous, on est des vraies citadines. On vivait à Paris, en banlieue parisienne, dans des grosses banlieues parisiennes. On a vécu 6 ans en Afrique, mais dans les grosses capitales. On vivait à Casablanca, on vivait à Abidjan. C'est des grosses capitales bondées. Donc, arriver à Mende, ça aurait pu être un choc dans un sens négatif.
Négatif. Alors, sur le coup, moi, j'étais choquée avant d'y aller. Mais dès que je suis arrivée, je me suis sentie chez moi. Et là, c'est un truc qui va me rester, je pense, toute ma vie. J'avais toujours l'impression, quand je remontais à Paris et que je redescendais pour rentrer chez moi, dans mon appartement, je me sentais vraiment chez moi. Tout est facile. C'est vrai que tu as besoin de faire un truc, je sais pas, tu as un papier à faire pour faire ton permis, mais c'est en face de chez toi. Tout est à proximité. Et ça, je connaissais pas ça, puisqu'à Paris, t'as pas ce côté, à moins d'être vraiment dans un arrondissement où tout est à côté, la plupart du temps, on te dit d'aller dans tel arrondissement. Tu passes beaucoup de temps dans les transports. Alors que là, j'ai découvert qu'en fait, tu fais tout à pied. J'ai trouvé ça fabuleux. Et il a fallu que je remonte à Paris pour faire mon stage de 4 mois. Et c'est là que le choc s'est fait, puisque c'est à partir de là, au bout de 2 semaines à mon retour de Mende, il me semble, j'ai pris le train de banlieue pour aller à Paris à mon travail. Et j'ai fait une crise, dont maintenant j'ai compris que c'est une crise d'angoisse, mais sur le coup, moi je pensais que j'avais un problème nerveux. Donc j'étais directement allée aux urgences en pensant que j'avais un problème au cerveau. Oui, j'ai cru ça. Et je suis sortie à la prochaine station du train en hurlant dans le train, une vraie folle. Je pense que les gens qui étaient là devaient se dire « qu'est-ce qui se passe ?» Je hurlais dans le train en disant « sortez-moi de là, sortez-moi de là ». Je suis sortie et c'est de là qu'a commencé quasiment, j'ai envie de dire, 4 ans. 4 ans de pure angoisse où je ne sortais plus de chez moi, je n'osais même plus, ne serait-ce qu'aller chercher du pain en face de chez moi. Ça a été 4 ans où il a fallu que je réapprenne à vivre, normalement, comme quelqu'un de normal, comme je peux le faire aujourd'hui.
Et c'est comme ça que, en fait, toi, t'étais tellement pas bien en région parisienne chez nos parents. Moi, j'avais déjà quitté la maison, je vivais avec mon ex-conjoint. Du coup, ça aussi, cette solitude un petit peu a dû te perturber, même si ça t'a pas perturbé quand t'étais à Mende, parce que tu vivais ta best life.
Oui.
Et du coup, c'est comme ça que notre grande sœur a appelé Isadora en disant « Tu peux pas rester dans cet état-là, viens vivre à Pau, dans le sud-ouest, chez moi, et je vais te requinquer. » Mais tout ça, elle l'explique dans la vidéo sur les angoisses, mais ça, c'est important, parce que du coup, t'es partie, t'as quitté cette mégalopole, là, cette capitale hyper... bruyante et bruyante et agitée, était repartie dans un endroit beaucoup plus cocon, une petite ville, c'est une plus grande ville que Mende, mais ça reste quand même une petite ville de province. Et donc là, grâce à Karine, t'as pu un peu
réapprendre des choses de base, c'est-à-dire des exercices comme Isadora, aujourd'hui tu vas aller chercher du pain. Le pain, il faut savoir que c'était en bas de chez Karine. C'était vraiment en bas. Donc, moi, c'est des exercices qui étaient difficiles. Après, réapprendre à travailler, trouver un travail intérimaire pour le temps d'apprendre pendant 2 jours à faire des comme ça, là.
La manutention. Non, des inventaires.
Les inventaires. Enfin, bref. Donc, tout ça, il a fallu que je réapprenne un petit peu à vivre. Je suis arrivée ensuite au Gary Lafayette. Mais là,
j'étais
à Pau. Mais j'étais toujours dans les angoisses. À cette époque-là, j'avais beaucoup d'angoisse. Aller au travail, c'était facile parce que c'était à pied. Donc, j'étais très contente de ne pas prendre la voiture parce que ça, pour le coup, c'est toujours resté un sujet pour moi. Mais voilà, j'ai quand même encore dans les angoisses. Ça s'atténuait, mais j'étais encore dans les angoisses.
Parce que moi, je trouve que c'est important de le dire parce que finalement, ce sera ton histoire de vie. C'est ça qui est intéressant après. Parce
toute
que
la vie.
Quand tu te connais, tu sais en fait aujourd'hui que la vie en ville, dans les grandes villes, ce n'est pas pour toi.
Impossible.
Et que finalement, tu as réussi à guérir en t'éloignant à nouveau, en partant dans un truc beaucoup plus cocon qui te réconforte et qui te fait du bien. Donc là, c'était juste pour cette digression, pour qu'on contextualise, parce que sinon, c'est compliqué de... Parce qu'on a... Nous, on a fait tellement de choses, on est parti tellement partout qu'après, les gens, ils vont dire « Mais attends, j'ai rien compris. » Donc là, t'es à Pau.
Ouais.
Tu travailles au Galerie Lafayette.
Ouais.
C'est bon, CDI, wouhou,
wow,
trop bien.
Trop heureuse.
Et que se passe-t-il ? Tu as mal au ventre.
Voilà. Non, c'est même pas ça. Que se passe-t-il ?
C'est vrai.
Que se passe-t-il ? Première étape, en août 2014. Ouais, c'était en août 2014. Première étape, je suis au Galerie Lafayette. C'est un mardi, je travaille pas le mardi après-midi. Donc, je suis le matin avec ma collègue. Et d'un coup, je lui dis, j'ai mal à la jambe. J'ai un battement de cœur dans la jambe, c'est trop bizarre. Ma collègue, qui est plus âgée que moi, me dit « Tu as une phlébite, je pense. » Comme ça, sorti comme ça. J'avais jamais... Pour moi, la phlébite, c'était un truc des personnes âgées, dont dans la maison de retraite. Donc, je rigole. Bien sûr que non. Enfin, moi, j'avais quoi ? Je devais avoir, je sais pas, fait 34 moins 8. Je vais avoir 26, un truc comme
ouais.
ça. Donc, pour moi, c'est pas ça. Je rentre chez moi. Et vraiment, cet élancement dans le mollet gauche n'était pas agréable et ça me faisait un peu tourner la tête. Je commence à avoir des vertiges, etc. Donc je me dis, tu sais quoi Isadora, tu vas à la pharmacie en bas de chez toi et tu dis au pharmacien que tu as mal à la jambe et il va me donner un médicament miracle. J'y vais et merci à ce pharmacien, d'ailleurs que je suis allée voir plusieurs fois après pour le remercier infiniment, qui m'a dit, je ne vous donnerai absolument rien puisque le problème, quand on a des battements comme ça dans les jambes, c'est un peu le même danger que quand on a mal à l'épaule, quand une crise cardiaque peut arriver. Ça peut être un symptôme d'une embolie pulmonaire. Je ne voyais pas le rapport, moi, entre mon mollet et le poumon. Mais ça encore, j'avais 26 ans, donc je ne comprenais pas.
Et donc, parce que juste pour expliquer, c'est souvent quand on a un battement, c'est qu'il y a un caillot peut-être quelque part qui peut se rediriger vers le poumon. Et caillot dans le poumon, bah, c'est
une embolie pulmonaire et ça peut être très
grave.
Ça peut être mortel. Et du coup, ce que je fais, c'est que je pars directement aux urgences à pied. À quasiment 50 minutes de chez moi. C'est important de le préciser pour la suite.
Oui, parce que la pauvre, elle était toute seule à ce moment-là.
Oui,
il n'y avait personne. Et Mathieu n'était pas là, Karine n'était pas là. Et donc, il n'y avait personne qui pouvait t'amener. Et ça, par contre, c'est un truc de fou. En fait, pas ça. Hein.
Et du coup, j'y vais à pied, j'arrive aux urgences. Et puis, on me prend immédiatement. Ça, je n'ai pas compris non plus pourquoi d'un coup. D'habitude, les urgences, c'est toujours long. Donc là, on me prend immédiatement. On me fait donc comme une échographie du mollet, et on m'annonce que c'est un docteur qui arrive en trompe dans la chambre, je m'en dirais toute ma vie, je pense, en me disant « Mais vous avez une phlébite ?» Et moi, j'étais là « Ah bon, une phlébite ? C'est grave ?» Elle me fait « Ça peut ne pas être grave, mais là, à votre niveau, oui. » Donc, j'ai été un mois, il me semble, alité avec une infirmière qui venait tous les jours pour me faire des piqûres anticoagulation. Ça, c'était en août. Donc, la phlébite qui arrive, mais si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que les phlébites, j'en ai eu ces derniers temps. Et après, en septembre, je suis donc toujours Galerie Lafayette, je travaille, etc. Et je rentre chez moi avec un mal de ventre incroyable. Non, c'est même pas ça. C'est que j'allais au Galerie Lafayette parce que j'étais pas du matin, j'ai de l'après-midi. J'ai hyper mal au ventre. De toute façon, j'avais toujours mal au ventre quand j'allais au Galerie Lafayette parce que j'aimais pas mon emploi. J'avais toujours mal au ventre, mais ce jour-là, j'avais vraiment mal au ventre, comme si on me mettait de l'acide, comme si j'avais bu de l'acide. Donc, je vais aux toilettes, je m'assois, je vais à la selle, et en fait, cette fois-là, pourquoi, je ne sais pas pourquoi, au lieu de tirer la chasse d'eau comme je fais habituellement, sans regarder la cuvette, chose que maintenant, je ne fais jamais, c'est-à-dire que j'aurai toujours la cuvette, et je peux vous dire, regardez toujours votre cuvette avant de tirer la chasse d'eau, que ce soit pipi ou la selle, pour voir un peu l'état de votre pipi ou de votre selle, de votre urine ou de votre selle.
Fun fact, anecdote. C'est très important parce que on va en reparler, mais microbiote intestin, c'est quand même la base de la santé d'un être humain, en fait. Et que, est-ce que le saviez-vous que le mot, l'expression « ça va », ça va, ça vient de, je crois que c'est Louis XIV ou Louis XVI,
ouais.
Louis XIV, ça va, c'est parce que le matin, quand Louis XIV ou Louis XVI, je ne sais plus jamais qui c'est, mais je pense que c'est Louis XIV, quand il se levait le matin, son médecin, la première question qu'il lui posait, c'était « caca va ? Est-ce que votre caca va ?» Et c'est la première question qu'on demandait le matin au roi, parce que si le caca va, tout va. Et ça va, ça vient de caca va, en fait. Donc c'est intéressant. Et donc normalement, on est tous censés, quand on fait la grosse commission, regarder l'état de ses selles pour voir si, en effet, tout le caca va.
Et même l'urine, hein, c'est hyper important parce que ça permet... Moi, je sais que quand je vois mon urine qui est hyper jaune, je me dis, ah, j'ai pas assez bu.
Ah, bien sûr, quand elle est jaune fluo, tu sais que t'as pas bu, quoi.
Donc c'est hyper intéressant. À l'époque, je le faisais pas. Maintenant, je peux vous assurer que je le fais tout le temps. Et là, je regarde pourquoi ce jour-là, je ne saurais pas dire. En tout cas, c'était, il fallait que je le fasse. J'ai regardé l'état de la cuvette et c'était rempli de sang. Mais quand je dis rempli de sang, c'était rempli de sang dans toute la cuvette. Donc ni une ni deux, j'appelle mon conjoint pour lui dire je pars vite aux urgences, j'ai la cuvette qui est complètement rouge, et je fonce toute seule encore une fois aux urgences, et on m'a pris directement et on m'a dit on vous fait dès demain, donc j'étais hospitalisée directement, on fait une coloscopie et une fibroscopie. On m'avait ça le lendemain. Quelques heures après, le médecin est arrivé, donc c'est un gastro-entérologue, pour m'annoncer que j'avais la maladie de Crohn. Ça a commencé donc, c'était en septembre 2014.
Et donc là, il te dit « Bonjour mademoiselle, vous avez la maladie de Crohn ». Et nous, on sait absolument... Toi, tu sais absolument pas ce que c'est, hein, parce que tu connais deux noms.
Je connais deux noms.
Moi, je sais que j'avais une amie qui avait son mec qui avait la maladie de Crohn, mais à un niveau... extrême, tu sais, quand on entendait maladie de Crohn à l'époque, tu imagines la personne qui allait faire caca toutes les 3 secondes, enfin, et qui savait pas se retenir, quoi. Moi, c'était limite, il se faisait sur lui, quoi.
Et moi, la maladie de Crohn, pour moi, c'était la personne qui a une poche.
Ah, voilà, oui, une poche, voilà. Donc toi, on t'annonce que t'as la maladie de Crohn, est-ce que tu te souviens de cette annonce-là, et tu te souviens de ce que tu t'es dit?
Moi, j'ai demandé directement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est à vie? Moi, j'ai toujours peur de...
Est-ce que c'est grave?
Oui. Voilà, moi, j'ai toujours cette peur-là. Donc, est-ce que c'est grave? Alors, la réponse n'est jamais oui ou non, puisque la maladie de Crohn, à mon niveau, quand même, a dit directement, vous l'avez pas un niveau hyper élevé. Oui, ça peut être grave, bien sûr. Une amie de maman, elle a la maladie de Crohn, elle a plus jamais pu travailler normalement, puisqu'elle a une poche qui la suit toute la journée. Donc, oui, ça peut être grave, bien évidemment. Moi, elle m'a tout de suite rassurée en me disant qu'elle n'était pas à un niveau très élevé, mais que c'est une maladie qui peut évoluer. Donc ça peut-être que potentiellement à 40, 50 ans, 60 ans, je serai avec une poche.
Donc c'est quoi la maladie de Crohn ?
Donc la maladie de Crohn, c'est la maladie d'inflammation des intestins. Donc si tu veux, quand on m'a dit que j'avais la maladie de Crohn, on me montre des photos de mes intestins, et sur la photo, ce qu'on voit, c'est des intestins, c'est assez ouf à voir cette image, remplie, il faut imaginer... rempli d'aftes, mais des aftes énormes, donc des ulcères en fait. Donc j'avais tout l'intestin, et un intestin c'est très très long, rempli d'aftes, d'ulcères, donc complètement inflammé, donc complètement ouvert en fait. Et donc moi elle me dit ça, et elle me dit directement, je vais vous donner un traitement. Que vous prendrez à vie, et qui vous fera diminuer vos crises. Parce que les crises, quand on a la maladie de Crohn, donc moi ce que j'avais vécu avec la selle par exemple rouge, c'est des crises comme on dit, des poussées, c'est t'as mal au ventre de façon incroyable, tu vas à la selle, généralement c'est très liquide, et moi c'était rempli de sang, donc ce qu'on appelle les crises de la maladie de Crohn, c'est ces poussées où d'un coup t'as hyper mal au ventre, et en effet avec ce traitement, du moment où je l'ai commencé, j'avais pas mal au ventre, j'avais plus rien, j'avais plus de poussées, j'avais plus de crises, tout allait bien.
Donc qu'est-ce qui a changé dans ta vie? On te dit que t'as la maladie de Crohn, tu te dis quoi? Est-ce que je dois changer quelque chose dans ma vie? Est-ce que je prends juste mes médicaments et tout va bien?
Là, c'est là que c'est flou. Peut-être que soit c'est parce que la gastro-entérologue m'a mal expliqué, ou est-ce que j'étais jeune et que j'étais pas prête à poser des questions pertinentes, parce qu'aujourd'hui, je poserais des questions complètement différentes. À l'époque, moi, elle me dit, vous prenez ce médicament. Je lui dis, ok. Je lui demande, est-ce qu'il faut changer de régime? Elle me dit, plus ou moins, essayez de manger moins de gluten, mais on vient toujours à la même chose. C'est le gluten qui va pas, c'est les produits laitiers qui vont pas. Donc voilà, manger moins de gluten, moins de produits laitiers. Et je me demande d'où ça vient, la maladie de Crohn. Elle savait pas trop m'expliquer, elle m'a juste dit, on sait pas d'où ça vient. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie qui vient notamment des pays très industrialisés et très aseptisés, où tout est propre. Donc elle me dit, vous devez avoir une maman ou un parent qui... vous avez une maison hyper sceptisée où tout était nickel, etc. Ce qui est vrai, on a une maman qui a toujours été dans une maison, on a toujours rigolé en disant on a une maison témoin parce que tout est rangé à sa place, tout est propre, etc. Donc à part ça, moi je suis partie.
On faisait pas le parallèle à l'époque aussi, le côté, c'est vrai que c'est des maladies qui sont très importantes dans les pays occidentalisés, mais pas tant pas que, je veux dire, parce que c'est aseptisé, mais c'est aussi parce que les pays industrialisés sont dans un truc de productivité énorme, de stress, d'anxiété, qu'aujourd'hui, je pense que là, aujourd'hui, si on parlait de la maladie de Crohn, on verrait aussi ce lien avec le stress et l'anxiété qui est très fort dans nos sociétés d'hyper-productivité où on nous force à travailler non-stop et à jamais prendre soin de soi.
Du coup, moi, je suis rentrée à la maison ce jour-là. Karine, qui vivait pas loin de chez moi, est venue. Et puis, celle qui n'était pas encore à fond dans la micronutrition à cette époque-là. Donc, elle avait des notions, mais la maladie de Crohn était encore un peu floue. Hein. C'était il y a 8 ans, donc c'était encore un peu flou. C'est maintenant qu'elle m'en parle beaucoup plus, qu'elle lit tellement d'études sur le sujet, elle les envoie à chaque fois en me disant « Mais te rends compte ? Maintenant, on peut faire un lien entre les angoisses et la maladie de Crohn, alors qu'à l'époque, pas spécialement. » Donc, elle m'a plutôt dit de revoir mon alimentation, mais elle, pas du tout dans l'extrême, parce qu'elle est contre le côté « on enlève le gluten, on enlève, non. » Donc, ce qu'on a fait, c'est j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire. Donc, tout a commencé de là. Voilà pourquoi j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire il y a 8 ans. C'était et parce que j'avais pris 10 kilos, mais je pense que ce qui a été le déclic le plus important, c'est quand on m'a dit que j'avais la maladie de Crohn et que j'avais tellement peur de l'avoir toute ma vie et que ça puisse évoluer, qu'il fallait que je change. Sinon, ça se trouve, à 40 ans, j'aurais une poche et je pourrais plus travailler. Moi, ça m'a fait peur, moi, de me dire, attends, je pourrais plus jamais travailler, j'aurais peut-être une poche qui me suit partout, je ferais caca dans une poche. Enfin, j'imaginais un truc, ta vie, elle est compliquée. Elle doit être très compliquée. Et du coup, j'ai commencé le sport aussi. J'ai commencé à courir beaucoup, j'ai commencé à faire beaucoup de sport, à marcher beaucoup, encore plus que ce que je faisais à cette époque-là. Et voilà, ça a été comme ça pendant, je dirais, 1 an. Prendre un traitement, plus faire du sport et apprendre à manger sainement. Et c'est là que j'ai commencé aussi à mettre mon compte Instagram.
Voilà.
Créer mon compte Instagram.
Et c'est vrai que, pour la petite parenthèse, c'est vrai qu'Isadora, croyez pas que tout ce qu'elle raconte, c'est une ligne toute tracée. Il y a forcément, vous imaginez bien, c'est la vie. Hein. Donc il y a des choses, par exemple, au début, elle a commencé son rééquilibrage alimentaire. C'était assez strict. Oui. Hein, c'était vraiment. Tu te rappelles ce que tu mangeais, c'était. Tu mangeais tous les jours.
La même chose.
La même chose. Ça, c'était incroyable. Et ça, on le sait bien maintenant, la variété, c'est la clé dans une alimentation saine. Vous pouvez manger des tomates tous les jours en vous disant que c'est sain. Ça reste des tomates tous les jours, donc vous ne bénéficiez pas de toute une richesse de vitamines et de minéraux si vous mangez de la salade. Parce que je pense à ça parce que quand on avait la plateforme Intention, beaucoup de nos membres disaient « Mais moi, je mange de la salade tous les jours, c'est mon légume. » Non, tu peux mettre de la salade, c'est bien, mais tous les jours, ça veut dire qu'il y a d'autres... tu manges toujours le même nutriment, la même vitamine. C'est important de toujours varier. Et au début, elle mangeait. Mais c'était incroyable d'avoir mangé toujours
la même tomate. Chose. C'est tomate, salade, avec 2 galettes de maïs. Parce que j'ai jamais aimé les galettes de riz, c'était les galettes de maïs. Où je mettais dessus un petit peu de genre carré frais. Et un morceau, une tranche de gouda. Tu sais, les goudas que t'achètes en tranche.
Non, c'était carré frais. Avec truite fumée ou jambon, non ?
Ou sinon, c'était ces 2 morceaux de gouda.
D'accord.
Un carré de gouda que je coupais en 2. Parce qu'il fallait manger.
Voilà.
Donc, mais ça n'a pas duré longtemps.
Ça n'a pas duré longtemps.
Ça a duré 4-5 mois où j'étais à fond. Je courais tous les jours. Mais tous les jours, je courais. Et même s'il pleuvait de ouf. Alors ça, j'aime beaucoup courir sous la pluie. Mais même à l'époque, si je n'aimais pas courir sous la pluie, j'y allais pour... parce qu'il fallait que je perde du poids. Et en même temps, que je sois dans cette frénésie de... Il ne faut absolument pas que je devienne une... une nana qui ne pourra plus travailler, etc.
Bah, c'est ta grosse période de cheat meal, et,
exactement.
Etc., etc.
Exactement.
Donc, là, toi, tu te dis, t'es conditionnée, tu fais ton rééquilibrage alimentaire, ça fonctionne bien. T'es conditionnée à prendre tes médicaments jusqu'à la fin de ta vie, tu les prends. Que se passe-t-il pour que ensuite tu décides, parce que c'est ça qui est le point clé de ton changement avec cette maladie de Crohn, c'est que tu arrêtes de prendre ces médicaments. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est cette rencontre ? Où est-ce que tu habitais ? Voilà, dites-nous tout.
Donc, pendant 1 an, j'ai fait ça. En 2015, j'ouvre Snackies, donc notre ancienne entreprise. Et en 2016, Mathieu est muté à Angers. Et donc, nous partons... Mathieu, c'est mon conjoint. Et donc, nous partons vivre à Angers.
Donc, vous quittez le Sud-Ouest.
On quitte le Sud-Ouest.
Tous les deux pour partir à Angers.
Pour partir tous les deux à Angers. Nous arrivons à Angers, et puis voilà, moi j'avais mon entreprise Snackies qui vendait des snacks sains et tout, donc je le développe, etc. Et on me demande d'aller à Paris pour faire une c'était quoi ? C'était avec Lorna Jane, il me semble.
Oui, c'est un événement, une rencontre.
Au Galerie Lafayette, très drôle d'ailleurs. Et là, mais moi, il faut imaginer que je suis quelqu'un de stressé, d'angoissé. Donc tout ce qui me fait sortir de ma zone de confort me fait des crises d'angoisse. Même si j'en avais un peu moins, j'en avais encore à cette époque-là. Je commence à avoir... En fait, moi, je sais pas dire non. Donc, on m'appelle, Isadora, est-ce que tu veux venir proposer des snacks à tel événement ou parler devant des milliers de gens, tu sais, quand j'avais fait avec la banque, là aussi, parler devant, je sais pas, des milliers de femmes. Moi, j'ai toujours oui parce que j'aime sortir de ma zone de confort, mais ça veut dire que pendant une semaine, deux semaines avant, je peux vomir, je peux pleurer, je peux avoir des crises d'angoisse, etc. Et donc là, je me mets dans un stress incroyable et juste, ça ne peut pas durer. Donc, j'appelle un acupuncteur que j'ai pris au pif sur Google Angers acupuncteur, parce que moi, c'était important pour moi, l'acupuncture, depuis mes angoisses. Mais pareil, je vous renvoie à la vidéo sur les angoisses, où pour moi, l'acupuncture, c'est vraiment ce qui m'a énormément aidée. Parce que nous, on vient d'une famille, on a une mère qui est très ouverte hein, aux médecines comme ça.
Les médecines douces. Ouais.
Les médecines douces. Du coup, c'est pas quelque chose qui est totalement inconnu pour nous. Donc, comme on a une mère qui a beaucoup fait... Notre mère est aussi une personne angoissée, pas au même niveau qu'Isadora, mais de toute manière, je pense que ça vient d'une lignée de femmes et de mères depuis des générations. On a une chaîne de femmes qui sont angoissées. Et du coup, notre mère, elle a l'habitude. Donc, Isadora, c'était pas genre... Tiens, si j'allais voir un acupuncteur, tu sens que ça sortait de n'importe où, quoi. Non,
c'est ma mère qui m'a amenée la première fois chez un acupuncteur, qui était médecin. Donc ça, moi, c'est vrai que j'aime bien ça, le côté... C'est un médecin qui est acupuncteur. Donc, je sais qu'en tant que médecin, il me donnera pas de médicaments... Les médicaments que donnent tous les médecins habituellement, puisqu'ils vont plutôt choisir l'homéopathie, les choses comme ça. Donc, moi, ce que je cherche sur Google, c'est pas acupuncteur, finalement, c'est médecin acupuncteur. C'était aussi important pour moi. Je sais pas pourquoi, j'aime ce côté médecine douce, oui, mais avec ce côté... c'est un médecin qui a appris quand même... tout ce qu'un médecin apprend, quoi, le corps humain, etc., etc.
N'oubliez pas, Isadora et moi, on est toujours sur... On a un pied très ancré dans le sol.
Oui.
Toujours, toujours, toujours. On est très terrestre, très terrienne, ouais. Très cartésienne pour certaines choses. Mais on est aussi dans le côté holistique, le côté spirituel. Mais on n'est pas totalement dans le spirituel, mais on n'est pas totalement dans le cartésien.
Non,
on a toujours besoin de ces deux...
Et c'est vrai que ces médecines-là... C'est vrai que maintenant que je le dis, je me dis, en effet, oui, mais j'ai toujours fait le choix de prendre un médecin acupuncteur, un médecin homéopathe. Je ne pouvais pas voir l'homéopathe. Du coup, j'y vais pour lui parler uniquement de mes angoisses, pour lui dire, voilà, je suis en crise d'angoisse et j'ai besoin d'être soulagée pour pouvoir faire mon événement tranquillement. Donc, pareil, il me demande, est-ce que vous avez des pathologies, etc. Moi, la première réponse, c'est non. Il me dit, ok. Il me fait, donc, venez pour les angoisses, oui. Et d'un coup, je lui dis, en fait, j'ai la maladie de Crohn. Et d'un coup, il pose son stylo, il me regarde, il fait, vous avez la maladie de Crohn et vous avez des angoisses ? Oui, moi, je n'avais pas le rapport. Et là, il m'explique, il me dit, mais vous savez ce que c'est, maladie de Crohn ? Moi, je lui réponds, c'est une maladie d'inflammation des intestins. Il me dit, c'est tout ? Je dis, bah oui, c'est tout. Il me dit, vous savez ce que c'est les intestins ? Vous savez à quel point les intestins, c'est hyper important d'en prendre soin, que c'est un deuxième cerveau, que si vous avez des angoisses...
Certains diront même que c'est le premier.
C'est le premier, oui. Si vous avez des angoisses comme ça, plus la maladie de Crohn, quelque part, ça va de pair. Mais moi, on ne m'avait jamais dit ça. Donc moi, je le regarde en mode, je ne comprends pas, en fait, quel rapport entre mes intestins et les angoisses. J'ai des intestins pas au top, déséquilibrés. J'ai des angoisses. Et plus j'ai des angoisses, plus mes intestins sont déséquilibrés. Je ne voyais pas du tout le rapport.
Mais aujourd'hui, maintenant, avec tout ce qu'on fait depuis des années, tu te dis, mais évidemment, c'est QFD.
Évidemment.
Mais à l'époque, c'est
ah non. Pas, non. Ah non, non, pas du tout. Et donc, c'est vraiment lui, là, qui m'a ouvert la voie de quelque chose d'incroyable. Je l'ai vu qu'une fois dans ma vie, d'ailleurs. Mais merci à lui, parce qu'il m'a fait changer la vision que j'avais de ma maladie. Donc, il m'a fait une séance d'acupuncture. Par contre, il m'a dit, on va arrêter votre médicament que vous prenez. Bien évidemment, c'est un médecin, donc il ne va pas me dire, vous arrêtez demain. Hein. On a fait par étapes. Vous savez, c'est des médicaments qui sont sécables. Donc, voilà, il fallait que je prenne un entier, puis ensuite, je le coupe, etc. Pendant quasiment 15 jours. Et puis, il m'a prescrit plutôt. Il m'a dit, maintenant, vous allez faire des cures de probiotiques. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est des probiotiques ? Ça non plus, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Donc, il m'explique ce que c'est. Donc, des bonnes bactéries pour réensemencer l'intérieur de vos intestins. Ok, très
bien. L'intestin qui est composé quand même de plus d'un kilo cinq de bactéries dans notre corps. Donc, on a un kilo cinq d'êtres vivants qui vivent avec des bonnes bactéries qui sont nécessaires pour notre santé, des mauvaises bactéries, entre guillemets.
Si on, ouais, si
et
on veut,
tous
si
les deux, tous ces ensembles-là doivent avoir une cohabitation très saine.
Très harmonieuse.
Très harmonieuse, normalement.
Comme dans un foyer.
C'est quand il y a un déséquilibre,
quand il n'y a pas beaucoup de bactéries bonnes pour notre santé et qu'il y a plus de bactéries qui nous veulent un peu plus de bobos, là, ça commence à devenir déséquilibré. Mmh. Sauf que toi, le médicament que tu devais prendre à vie, c'était en fait juste un pansement.
C'est un
médicament qu'on te donne. Ça arrêtait totalement tes inflammations, mais le déséquilibre est toujours là, finalement.
Oui, et c'est ça qui m'a très, très bien ce que tu dis, parce que j'avais oublié. C'est lui qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais vous savez que le médicament que vous prenez, qui s'appelle le Fivaza, c'est pour les personnes qui ont la maladie de Crohn et qui prennent la même chose, parce que c'est souvent les mêmes qu'on prend, c'est un pansement. Il me dit, c'est au même titre qu'un Doliprane. Si vous avez une migraine, vous prenez un Doliprane, certes, vous ne ressentez plus le mal de tête. En revanche, ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il ne faut pas aller boire de l'eau parce que si vous avez une migraine, ça se trouve que vous n'avez pas bu assez dans la journée. Et ben, le Fivaza, c'était pareil. C'était, je le prends, il enlève mon mal. En revanche, j'ai toujours mes ulcères dans les intestins. Ils sont toujours là, ils sont béants, ils restent là.
Mais moi, j'aime toujours dire, vous prenez une plaie que vous avez sur votre main, vous avez une plaie béante, vous dites, ah mince, j'ai une plaie, bim, un pansement par-dessus. Quand vous retirez le pansement, ah, la plaie, elle n'a pas été rebouchée.
Elle n'a pas été soignée.
En fait, elle n'a pas été soignée. C'est vraiment, on dit souvent en naturopathie d'aller voir la cause de la cause de la cause de la cause. C'est vraiment pas juste mettre par-dessus quelque chose, c'est vraiment aller à l'origine du mal, à l'origine du mal pour le soigner ce mal-là.
Et c'est lui qui m'a expliqué ça. Donc, il m'a demandé de prendre des probiotiques, ce que j'ai fait. Donc, je ne vous dirai pas les probiotiques parce que ça sert à rien en fait de prendre des probiotiques qu'on peut trouver un peu partout maintenant. C'est vrai que c'est tellement populaire, tout est probiotique aujourd'hui.
Bah oui, il y a beaucoup de boîtes, on ne citera pas les noms parce que voilà, chacun fait son business comme il le veut, et je pense que c'est des boîtes qui sont honnêtes, hein, elles pensent bien faire du bien aux gens. Je pense pas que mais c'est juste que c'est très intéressant, on en parlait il y a pas longtemps avec Isadora, c'est que les probiotiques, souvent on nous demande mais vous prenez lesquels? Alors des probiotiques, vaut mieux être, il faut qu'ils soient ciblés. C'est-à-dire que vous allez voir une diététicienne, une nutritionniste, une micronutritionniste,
un médecin,
et il va vous cibler par rapport à une consultation qu'il a fait pour vous. Donc moi, par exemple, Karine, là, elle m'a conseillé une cure de probiotiques parce que moi, j'ai des douleurs, Marisa. Actuellement, j'ai un microbiote justement déséquilibré. Donc Karine m'a proposé une cure de probiotiques, mais je n'aurais aucune idée seule de comment les prendre, pourquoi prendre ça. C'est vrai que c'est important. Et le truc de toutes ces nouvelles boîtes qui proposent tellement maintenant des capsules de probiotiques, comme on disait avec Karine, mais il y a combien de milliards de bactéries de souches à l'intérieur de vos...
Et quelle est la souche?
Quelle est la souche? On ne sait pas.
C'est très drôle parce que j'avais commandé une fois pour voir une boîte qui vend des probiotiques mensuels, tu vois ça chez toi. Et j'avais commandé, j'avais montré à ma sage-femme, à Claudie, à Karine, et les trois me disaient, mais d'accord, mais quel est le probiotique? Quelle est la bactérie souche à l'intérieur? Je sais pas, parce que c'est juste écrit probiotique, il n'y a même pas écrit les milliards de bactéries qu'il y a dedans. Donc
après, ils te mettent des petits noms, gut friendly, gut healthy, gut,
ouais.
Pour des jolis mots, pour te dire qu'en gros, ça, si tu vas prendre cette gélule-là, tu vas la recevoir tous les mois en abonnement, c'est bien, tu vas prendre soin de ton intestin, mais toi, tu n'as aucune idée de qu'est-ce que tu mets dans tes intestins.
Non.
Quelle est la bactérie? Ouais. À combien de milliards elle est? On ne sait rien.
C'est ça.
Rien à noter sur le papier.
Donc,
allez vous renseigner auprès d'un professionnel de santé qui va vous conseiller des probiotiques ciblés, c'est très important. Une durée de cure, ça aussi c'est important. Donc nous, on ne pourra jamais vous dire, et sur les réseaux sociaux, si quelqu'un vous dit prenez ce probiotique, ne le faites pas. On n'a pas, et sachez que les intestins, c'est une carte d'identité qui nous est propre à chacun. Personne n'a le même microbiote. Un microbiote est unique à chaque individu, même
comme
Isadora et moi.
Voilà,
comme une empreinte. Isadora et moi, on est jumelles, nous n'avons absolument pas le même microbiote. Donc, vous ne pouvez pas aller prendre les probiotiques qu'Isadora a pris. Moi, je ne vais pas vous faire prendre le mien parce qu'on ne sait pas par rapport à... Il faut vraiment faire un suivi et une consultation.
Donc, j'ai commencé à faire ça pendant la première fois, je pense que c'était 6 mois. Et puis après, je le faisais une fois par an. Et puis, c'est vrai, maintenant, je ne fais plus. Donc, il faudrait peut-être que je le refasse. Et en fait, ce qui est drôle... ou pas, mais si quand même, c'est que sans m'en rendre compte, mais vraiment sans m'en rendre compte, là je vous parle avec du recul, ça fait 8 ans, hein, donc ça s'est pas fait du jour au lendemain, je veux vraiment le dire parce que c'est comme la perte de poids, hein. Ça se fait pas, même si on a beau vous faire croire sur les réseaux qu'on peut devenir un avant-après, enfin je veux dire, si je devais faire un avant-après de mes intestins, c'était il y a 8 ans la photo, hein.
Ouais.
Donc 8 ans après, alors là maintenant je pourrais le faire, regardez-moi ça, comment ça, c'était génial, et venez acheter mon programme, mais en soi, il y a eu 8 ans de découverte, de...
Mais tu comprends, Isadora, qu'un programme sur 8 ans, c'est pas vendeur.
Bah, je me dis, parce que si je le vends 1 000 euros, ce qui est déjà énorme.
Sur 8 années.
8 ans, je sais pas comment j'ai payé mon loyer.
Voilà, et puis les gens, ils ont besoin de résultats. Hein. Oui. Donc si tu leur dis, par contre, tu achètes mon programme à 1000 balles, mais c'est dans 8 ans que tu verras un résultat, il n'y a personne qui va acheter ton
alors
programme.
Alors que pourtant, c'est la clé.
Ce serait la vraie
pas,
vie.
Pas 8 ans, mais la clé sur la durée, la perte de poids sur la durée, c'est la perte de poids qu'on garde. Le bien-être intérieur, c'est sur la durée, c'est comme ça qu'on va le garder. C'est sûr, mais bon, ça après... Je vous proposerai peut-être un programme sur 8 ans. 10 ans.
Get friendly, get healthy. Récupérez votre gut.
Et c'est vrai que c'est drôle parce qu'au fur et à mesure, mais ça, je m'en suis pas rendu compte. Moi, c'est plutôt les gens qui ont commencé à me le dire. Ah, c'est drôle, ça veut dire que t'as pas fait de crise d'angoisse. Ah, t'as pas peur d'aller à tel endroit toute seule. Et puis après, moi, je me disais moi-même, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu hyper mal au ventre de stress. Et puis, bah, au fur et à mesure, les années passent. On est en 2022.
Plus de sang dans tes selles.
Plus de sang dans mes selles, j'en ai plus jamais eu. Les angoisses. Alors, je sais que je serai toujours une personne avec des angoisses au fond de moi, mais que je comprends. Maintenant, je me comprends. Donc, je sais comment les éviter au maximum. Mais je n'ai plus jamais fait ces crises de spasmophilie dans la rue où je me mettais à hurler. Je n'ai plus jamais eu ce vertige quand je suis dans la rue et entourée de gens et j'ai limite envie de vomir, ça, parce que moi je vomissais beaucoup hein, quand j'avais des angoisses, donc ça m'ont plus vomir d'angoisse comme ça, je ne l'ai plus jamais fait. Mais c'est maintenant que je vous le dis aussi, je me rends compte que ouais, c'est fou parce que pour moi ça paraît comme si c'était du jour au lendemain, mais en fait ça a été sur plusieurs mois que ma situation s'est améliorée. Mes angoisses se sont améliorées, j'ai changé de vie professionnelle, j'ai changé d'alimentation, j'ai commencé à faire du sport, donc j'ai pris des probiotiques. Finalement, il n'y a pas eu un truc miracle.
Et tu t'es créé un environnement qui t'est favorable.
Oui.
Donc toi, en fait, c'est pas juste « Ah, c'est bon, dans l'épisode de podcast, elle a dit qu'elle prend des probiotiques, tout est bon. » Non. Isadora, elle a travaillé sur... Donc les probiotiques, ok. Ça, c'est impératif. Si vous avez de toute manière, à partir du moment où un être humain a un microbiote...
Oui.
Donc jusque-là, normalement, à peu près tout le monde en a un. Les probiotiques, c'est quand même quelque chose de pas obligatoire tout le temps, mais de faire des petites cures de temps en temps. Mmh. Et si vous êtes comme nous, que vous sentez des inconforts en termes de digestion, vous digérez toujours mal, vous avez des maux de ventre, des ballonnements, beaucoup de gaz...
Des insomnies,
des migraines, des constipations ou des diarrhées fulgurantes, tout ça, ça veut dire que votre microbiote, quand même, il a un petit déséquilibre ou un gros, tout dépend. Allez consulter quand même, c'est important. Parce que le microbiote, c'est ensuite, si vous êtes nerveuse, que vous avez des angoisses, etc., ça peut venir aussi de là. On ne dit pas que ça vient de là, ça peut aussi venir.
C'est donc, une piste à explorer.
Voilà, c'est une piste à explorer. Donc c'est important. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'Isadora, elle a travaillé. Donc elle a pris ses... En termes de cachet, oui, t'as pris tes probiotiques. Mais en même temps, oui, t'as fait le choix d'arrêter ta vie professionnelle qui t'angoissait. Tu détestais aller retrouver tes collègues tous les jours. T'as créé un milieu professionnel qui t'a épanoui et qui t'a cocooné en fait, parce que du coup t'as travaillé toute seule chez toi, là où tu te sens en sécurité, tu te sens bien. Après c'est moi qui suis venue, moi ta sœur jumelle, donc tu t'es sentie aussi en sécurité. Tu vis dans une ville, t'as quitté les grandes villes, mais quand tu venais à Nantes me voir, tu disais c'est impossible,
je peux plus.
Donc en fait c'est parce qu'au bout d'un moment, au fur et à mesure, t'as découvert ce qui te faisait du bien, t'as compris grâce à des thérapeutes, hein. C'est pas juste toi qui as découvert, t'es parti voir quand même pas mal de thérapeutes qui t'ont fait comprendre qui tu es et que tu, il ne faut pas aller à l'encontre de qui tu es.
Oui.
Et ça c'est important, je trouve.
Parce que ce qui est drôle, c'est que si on remonte à il y a peut-être 10-15 ans, quand on me demandait où est-ce que tu te vois à 35 ans, jamais, au grand jamais, je n'aurais dit, mais jamais, moi qui étais une parisienne, une fervente parisienne, j'aurais dit que je vivrais à la campagne dans une ville de 2000 habitants, que je ne prendrais pas la voiture parce que je n'aime pas prendre la voiture, que je ferais du sport, parce que j'ai détesté le sport de toute ma vie, que je mangerais sainement et que mon métier, ce serait d'être entrepreneur. Enfin, il y a 10 ans, on disait non, parce que moi, j'imaginais vivre peut-être à New York, vivre...
Los Angeles.
Voyager dans le monde entier. Moi, j'imaginais une vie où je voyagerais dans le monde entier, que je sauterais d'avion en avion, que j'aurais limite pas de chez moi stable, alors qu'en fait, mais ça va à l'encontre de ma personnalité. J'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'assurance, de me sentir en confiance. Donc finalement, c'est ça qui est drôle, c'est que plus on vieillit et plus on se rend compte de qui on est. Et je pense que les angoisses, c'était justement, les angoisses, la maladie de Crohn, le petit appel du pied me disant, la vie que t'es en train de vivre, t'es peut-être pas celle que... T'es pas sur le bon chemin. Et moi, je pense beaucoup que le corps, il est toujours là pour nous aider et pour être notre meilleur ami. Donc, je pense qu'il m'a tapé du coude en disant « Ouh là là, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais tu étais très bien là, amande. Je sais pas ce que tu as voulu refaire, à revenir en région parisienne, à poser des CV partout, dans les grands châteaux, dans les grands... Parce que j'imaginais, moi, être dans l'événementiel, dans les grands châteaux.
Parce que Isadora l'avait fait, on l'a pas dit, mais Isadora, elle était partie faire, après sa licence d'histoire, elle était partie faire une deuxième licence de tourisme. Oui. Donc à la base, c'est pour ça qu'elle parle de voyage, etc. Parce que ça, c'est ancré en nous. Hein, le voyage, ça fait partie de nos personnalités. D'ailleurs, on l'a vu en numérologie, mais ça, c'est un autre sujet. Que le voyage, ça fait vraiment partie intégrante de nous. Donc elle se voyait dans des villes de fous, alors qu'aujourd'hui, on est parti en Irlande, on va directement dans la campagne. Grave. Tu voyais notre vlog en Irlande qu'on a posté il y a quelques mois. On est arrivé à Dublin, mais le lendemain de Dublin, bim, bam, boum, il faut qu'on aille directement dans nature, campagne.
C'est ça qui est drôle, parce qu'en tant que parisienne, je pensais pas que, non. Pour moi, la nature était hyper importante, mais finalement, je me rends compte, avec le recul aussi, que c'est pas que moi. Qu'en fait, en tant qu'être humain, on s'est tellement déconnecté de notre lieu, on va dire primaire, c'est-à-dire la nature, on s'est tellement déconnecté que moi, le contact avec la nature, les probiotiques, le manger sainement, mouvement, etc., c'est ce qui m'a fait, je pense, guérir. Pourquoi je dis guérir ? C'est parce que, pour en revenir au tout début de l'épisode, cette année était une année, quand même, on vous l'a déjà dit dans le podcast, qui n'a pas été facile au niveau professionnel, mais moi, ça s'est ressenti sur ma vie personnelle et sur mon corps, puisque j'ai fait, en l'espace d'un an, 3 phlébites. Et si on se rappelle, ma première phlébite, ça a été avant qu'on me dise que j'ai la maladie de Crohn, quand j'étais en plein dans mes pics des angoisses. Donc moi, j'ai tout de suite su. Pas la première. La première phlébite, j'ai pris ça un peu par-dessus la jambe. La deuxième phlébite, je me suis rappelée direct de tout ce qu'on a appris aussi sur la plateforme, ça qui est drôle, du corps qui te parle, des symboliques qu'il y a derrière chaque maladie. Troisième phlébite, bon bah là, je pense que j'ai compris. Et c'est là que j'ai dit à mes sœurs, à Marisa et à Karine, je veux qu'on arrête la plateforme Intention, qui me générait tellement, je pense, de stress et d'angoisse que je recommençais à avoir très mal au ventre, à ressentir de l'acide dans le ventre.
T'étais à nouveau dans un déséquilibre.
J'étais à nouveau dans un déséquilibre et je pensais pas que ma vie professionnelle pourrait un jour, à ce point-là, me faire me sentir mal. Et comme tout le monde connaît mon parcours, en tout cas les médecins qui me suivent, direct, ils m'ont dit « phlébite ». Anxiété, j'avais des insomnies, ça ne va pas, il faut qu'on aille faire une coloscopie pour voir si tout ça n'est pas lié à la maladie de Crohn qui s'est réveillée.
Oui, parce que revenons, ce qui est important et ce qu'Isadora ne dit pas, c'est que toi, quand tu as eu ta troisième phlébite notamment, tu savais très bien de quoi ça venait. Tu savais parce que ta vie professionnelle, tu n'étais pas en équilibre, tu n'étais pas épanouie dans cette vie professionnelle-là, ça te générait beaucoup de stress, donc tu savais très bien que ton corps te disait quelque chose. Sauf que quand t'es partie voir ton médecin de ton village, quand il t'a demandé, ou elle, je sais plus
si elle, ouais.
Elle t'a demandé, globalement, vous pensez que ça vient d'où ? Elle s'attendait pas à ce que tu te dises. Parce que ma vie pro ne m'épanouit pas. C'est ce que tu dis, un truc plus factuel. Oui. Parce que j'ai trop marché, parce que j'ai pas mis mes bas de contention, bref. Et du coup, elle t'a dit tout de suite, elle t'a vraiment
balayé
ça d'un revers de la main, en mode, mais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, et puis c'est pas du tout avec une bienveillance et tout, non. C'est vraiment n'importe quoi. Et il n'y a aucun rapport entre une phlébite et un mal-être intérieur. Et moi, ça me tue à chaque fois. C'est pour ça que nous, on a beaucoup ce besoin d'aller voir des thérapeutes holistique, ou je sais pas comment on appelle ça, naturel,
ouais, médecine douce,
parce que eux, ils ont compris quand même que il y a un vrai lien aujourd'hui dans nos sociétés entre un mal-être intérieur et le corps qui te parle. Enfin, je veux dire, ça fait pas que depuis hier. Hein, je veux dire, ça fait depuis la nuit.
Après, je pense que aussi la nouvelle génération de médecins sera plus ouverte. On a une amie, une très bonne amie, Claudia, si tu passes par là, coucou, qui est médecin généraliste. Et qui, elle, a vraiment ce côté très médecin. Alors, elle est médecin généraliste, donc on va la voir pour des mots. Mais la première question qu'elle pose, ça qui est drôle aussi, on en a beaucoup parlé autrefois, elle dit, mais moi, la première question que je pose à mes patients, c'est quelle est votre hygiène de vie ? Alors que moi, un médecin m'a jamais demandé quelle est mon hygiène de vie. Moi, c'est, ah bah, j'ai mal à la gorge, tiens, tu vas prendre ce médicament, et la consultation de dire 10 minutes. Alors que je pense qu'une nouvelle génération de médecins ont compris le lien entre les émotions, le bien-être, l'hygiène de vie et les mots qu'on peut avoir. En tout cas, pas mon médecin généraliste à moi.
Voilà, donc quand t'as fait ta troisième phlébite, là, elle s'est dit quand même, bon, votre truc des émotions, n'importe quoi, on va aller voir chez Crohn. Ça se trouve, c'est Crohn qui s'est réveillé et qui vous cause la phlébite.
Oui.
Donc, on va aller voir, parce qu'il faut vraiment trouver, pour elle, il fallait trouver un truc tangible.
Exactement.
Vraiment un truc qui soit vraiment concret et scientifiquement acceptable.
C'est ça. Donc, elle a envoyé un mail direct à mon gastro-entérologue qui, pareil, m'a dit « Oh, phlébite, etc. La maladie de Crohn a dû se réveiller. Donc on a pris un rendez-vous pour coloscopie et fibroscopie, donc un petit tuyau qui passe par le haut, donc dans la bouche, et par le bas, donc dans l'anus.
Voilà.
Donc c'est une intervention qui est sous anesthésie générale, donc tu sens absolument rien, ni qui passe dans l'anus, ni par la bouche, hein. ne vous inquiétez pas, c'est juste l'avant, désolé pour celles et ceux qui vont passer ça bientôt, mais courage, force à vous, parce que la préparation à une coloscopie, il faut que tes intestins soient complètement vides, pour que quand on met la caméra dans tes intestins, ce soit nickel, il faut que la caméra puisse voir tout ce qu'il y a dans les intestins, s'il y a de la bouffe,
la merde.
S'il y a de la bouffe et de la merde, bah oui, oui, du caca.
Oui, s'il y a du caca.
Ça va pas le faire. Donc, il faut que les intestins soient complètement vides. Donc, pendant 3 jours, on mange sans résidus, c'est-à-dire sans fibres. Donc, toute mon alimentation de base, hein, pas de légumes, pas de fruits, pas de
légumes secs,
pas de tout ce qui est complet, pas de riz complet, pas de tout. Tu manges blanc, tu manges du...
J'aime bien dire biscotte et gouda.
Voilà, c'est ça. Et ensuite, t'as une boisson de 2 litres... comme si tu buvais de l'eau de mer, 2 litres d'eau de mer à boire, qui est absolument dégueulasse. Et après, tu vas cours tellement aux toilettes que tu te vides et donc tes intestins sont nickel. Donc, c'est vraiment ça qui est horrible, pas l'intervention en elle-même. J'ai fait ma petite intervention. La gastro-entérologue arrive dans la chambre et me regarde. Je pense que ça aussi, je m'en serais toute ma vie. Il y a plein de petites choses que je m'en serais toute ma vie. Et je lui dis alors, et elle me dit, c'est fascinant puisque vous avez rien. Vos intestins sont nickel, vous avez les intestins d'une personne complètement normale. Elle me dit, si je ne savais pas qui était votre ancienne gastro-entérologue à Pau, et que c'est une gastro-entérologue qui, voilà, pas, je ne dis pas connue, mais
qui existe, réputée dans son domaine,
qui est réelle, les examens que je lui ai ramenés d'il y a 8 ans à Pau sont réels, elle voit les photos, elle fait, si je n'avais pas tout ça, je dirais que vous n'avez jamais eu la maladie de Crohn. Elle fait, bien sûr que ça arrive des rémissions un peu, comme elle dit, spectaculaire. Mais c'est tellement rare que limite, on les oublie. Mais elle fait, à ce jour, ce que je peux dire, si vous avez des intestins complètement normaux, je vous ne donnerai donc aucun traitement. Continuez juste votre hygiène de vie actuelle. Et on se revoit dans 1 an. Donc, on s'est donné le truc de se revoir à peu près tous les ans, juste pour être, juste savoir si ça va bien, pas pour faire une coloscopie, juste pour savoir si tout va bien. Donc, elle était assez fascinée et elle est partie. Ça a duré 10 minutes puisqu'elle m'a dit « j'ai rien à vous dire, pas de traitement à vous donner, continuez juste sur votre lancée et voilà. » Et c'est vrai que moi, ça m'a fait hyper plaisir parce que je me suis rendu compte que toutes ces dernières années, ces 8 dernières années où j'ai été sur le chemin de la quête de moi-même, apprendre à me connaître, qui je suis, qui j'ai envie d'être, mon alimentation qui a changé, mon hygiène de vie qui a changé, ma façon de vivre, où je vis, tout ça, quelque part, m'a permis d'aujourd'hui de me sentir beaucoup plus apaisée, de ne plus avoir ces ulcères aux intestins, de ne plus avoir d'angoisse. Mais je sais aussi que c'est un travail qui va être un travail de ma vie, que de toujours essayer de me prioriser et de toujours faire très attention à ma santé.
Oui, et c'est ça, moi, je trouve ça hyper beau, ça que j'avais dit quand Edouard m'a dit ça. J'ai fait, non, mais attends, il faut en faire un épisode parce que c'est... Je trouve que c'est vraiment un parcours de vie, toujours à la recherche de cet équilibre, parce que ça n'a été pas facile.
Non.
C'est des décisions qui ne sont pas faciles. Quand toi, tu sais que dans ta vie, tu as toujours pensé que tu aurais un CDI, et une fois que tu as ton CDI, tu te dis, c'est bon, je suis au top de mon... Là, la société, elle ne peut rien me demander de plus, quoi. J'ai mon CDI, tout va bien. Ouais, tu te rends compte que tu n'es pas heureuse, mais il faut faire le choix de quitter. Pour faire quoi? Pour lancer ta boîte, mais ou changer, ou en tout cas changer de... Et c'est vrai que ce matin, on en parlait avec papa-maman, parce que... On parlait de ce changement, c'est vraiment totalement anodin, mais on parlait de ce changement d'heure. Et on disait, et avec papa et maman, on disait, vous rappelez, à l'époque quand même, à 6h30, on était déjà dans le métro pour aller au travail, il faisait nuit noire. Qu'aujourd'hui, nous, on a ce luxe qu'on s'est créé, et je dirais pas cette chance, parce qu'on s'est créé ce luxe, de dire que moi, le matin, oui, je me réveille parce qu'il fait nuit, parce que ma fille, 7h30, non, il fait nuit, mais... Je ne suis pas dans ma voiture à 6h30 du matin ou dans le métro à 6h30 du matin parce que je dois prendre 3 RER avant d'aller arriver au travail. Et ça, c'est quelque chose qui... ce sont des choix qu'on a faits qui n'ont pas été faciles, des décisions à prendre, des prises de risques à faire, mais de toujours revenir à cet équilibre qui nous convient. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce soit papa, maman ou nous, on a cette vie. Mathieu aussi, même s'il est salarié, il a une vie qui lui permet...
Et aussi à trouver l'emploi,
qui lui
convient d'être épanoui.
Et d'avoir ce truc où tu te dis, je vais bien. Mais c'est pas simple.
Non.
Et c'est vrai que si seulement, je trouve, les médecins, quand ils voyaient quelqu'un avec une pathologie comme toi, t'as une pathologie des intestins inflammés, etc. Mais d'autres ont autre chose. Il y a d'autres personnes qui ont, je sais pas, il y a plein aujourd'hui de pathologies de ce monde occidental qui pourraient être résolues si on allait dans cette micronutrition déjà et pas juste mange des fruits et légumes. Non, non, non. Tu manges... Là, il faut vraiment aller dans la micronutrition. Et si on allait au fond des émotions des gens, si on leur disait, écoute, là, t'es pas en équilibre. Ta vie professionnelle, elle va pas. Sachant qu'on n'oublie pas que la vie professionnelle, c'est à plus de quoi ? Combien de pourcentage ?
En plus, vous avez dit le médecin généraliste.
Pas 90% ?
90%.
C'est 90%. Le burn-out fait partie des 90% des arrêts maladie aujourd'hui. Donc clairement, est-ce que t'es sur la bonne voie professionnelle? Est-ce que t'es bien dans ta vie, dans ton couple? Est-ce que, et quand tu te poses toutes ces questions, tu peux guérir. C'est pas juste en disant prends tes probiotiques et c'est bon. Ah bah non, si tes émotions elles sont toujours aussi, si tu vis toujours dans cette ville que tu détestes, dans cette maison que tu détestes, avec le conjoint que tu détestes, que tu es toujours en train d'être accroché à un membre de ta famille qui te fait du mal. Tout ça, et ça, on dit pas que c'est facile, c'est hyper difficile, c'est des décisions qui sont très difficiles.
Ça n'a pas été du tout facile, à la troisième phlébite, de dire à mes sœurs, au fait, on arrête tout. Attendez, enfin, la bonne intention, tu avais limite 50 000 euros par mois qui permettait de payer tous ces gens avec qui on travaillait. Et là, c'est moi qui dis, mais en fait, je voudrais qu'on arrête. Donc, ce n'est pas des décisions faciles, mais c'est des décisions qui sont à un moment donné, qui sont vitales.
Qui sont nécessaires pour votre santé et de n'importe quel ordre qui soit. Quoi.
Et mental, pareil, moi, jamais physique. Tu me diras, Isadora, on te propose 5 000 euros par mois pour aller vivre à Paris ou dans une autre grande ville. Mais ma réponse sera toujours non, parce que maintenant, à 34 ans, bientôt 35, je sais que moi, je dois vivre dans une vie calme, sereine, sans trop de... Alors, ça va être drôle parce que les gens vont se dire, mais attends, tu dis que tu n'aimes pas sortir de ta zone confort, mais pourtant, tu as quand même lancé une entreprise, etc. Oui, c'est vrai, mais dites-vous bien que tout ça, c'est fait de chez moi,
de
mon confort. Je ne sais pas si j'aurais réussi à monter une entreprise jusqu'où elle est montée à cette époque-là, ou en tout cas là, en étant par exemple une Wonder Woman qui a des bureaux à l'extérieur avec plein de gens autour d'elle et des salariés. Je suis pas sûre. Je suis sûre que ça aurait été très difficile pour moi. Je serais rentrée avec des angoisses, des crises d'angoisse. Tout s'est fait finalement dans mon cocon.
Donc quel serait ton message? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter cet épisode et qui sont atteintes de maladie de Crohn. Quel est le message que tu leur ferais passer? T'as envie de leur dire quoi?
Moi, j'ai envie de dire que soit les personnes qui ont la maladie de Crohn ou n'importe quelle pathologie, où on leur dit peut-être que ce sera pour toujours, je leur dirais d'apprendre à se connaître, d'aller plus loin que juste le médicament qu'on a donné, d'aller plus en profondeur, d'aller peut-être voir d'autres personnes comme des thérapeutes, sophrologues, hypnothérapeutes, acupuncteurs. Parce que vraiment, il ne faut pas s'arrêter à la surface. La surface, c'est-à-dire pour moi, la surface, c'était tu prends ton Fivaza et toute ta vie, tu vas le prendre et c'est super. Et tu vas vivre une super vie comme tout le monde. Oui, mais si j'avais fait ça, ça ne m'aurait pas empêché d'avoir encore des angoisses, encore de ne pas être en équilibre dans ma vie, de faire un métier que je n'aime pas. Et donc, potentiellement, ma maladie de Crohn, oui, j'aurais pris les Fivaza, mais aurait pu évoluer de façon dramatique.
Et surtout, ça veut dire que toi, ce que tu n'as pas dit, c'est que quand tu prenais ton Fivaza, tout allait bien, mais si tu oubliais de le prendre,
ah oui,
c'était immédiat. Donc, dans tous les cas, ce n'était pas une vie. C'est-à-dire que tu savais très bien que si demain, tu oubliais une fois, que tu allais le payer cher.
Oui.
Est-ce que ça, c'est une vie?
Non.
De savoir que tu as pris un médicament qui est un pansement, qui te fait du bien, mais que si tu l'oublies, tu vas douiller, en fait.
Et
le
c'est
but,
c'est
d'aller peut-être pas une rémission totale comme toi, qui est spectaculaire, ok, qui a pris 8 ans, rappelons-le, mais au moins, à minima, de se dire... Ouais, là je vais bien, parce que j'ai recalibré tous les pans de ma vie. Est-ce que je bouge? Est-ce que moi, c'est des questions à se poser aussi. Est-ce que vous bougez? On en parlait avec Karine pendant les vacances.
Oui.
Je lui ai dit, t'as un super titre de livre. On parlait de Glucose Goddess. On en parlera peut-être un autre sujet parce que bon, bref, moi tout ça me dépasse. Mais on parlait de ce livre qu'elle a sorti, Glucose Goddess. Là, enfin c'est pas elle qui a sorti ce livre, mais bon, son livre s'appelle Glucose Goddess. Je connais pas le nom de la nana. Et elle disait, Karine, on pourra bien sortir tous les livres du monde. Et ça, j'avais dit à Isadora, j'avais dit à Karine, c'est un super titre de livre. Je me vois bien écrire un livre avec Karine qui s'appelle on pourra écrire tous les livres du monde. Elle disait, tant que l'être humain ne comprendra pas que sa nature première, c'est le mouvement, et qu'aujourd'hui, plus personne ne veut bouger, ça ne bouge pas, ça reste très sédentaire. Si déjà on repartait, plutôt que de voir tout de suite dire à une personne, arrête de manger du sucre, arrête le sucre. Non, tu dis pas ça à une personne. Ne serait-ce que dire déjà, bouger. Ben c'est ça, avec ces épisodes, c'est vraiment de vous dire aussi de l'hygiène de vie, c'est ce qui va nous suivre jusqu'à la fin de nos jours. C'est ce qui va nous faire qu'on va être en bonne santé. Donc le mouvement, quel qu'il soit, c'est ce qui va, d'un côté, vous sauver, quoi.
Et c'est vrai que, essayez aussi, si vous êtes comme moi, hein, parce que moi, c'est peut-être des conseils que j'aurais aimé avoir à l'époque, ça m'aurait peut-être pas pris 8 ans, de ne pas banaliser les mots. C'est vrai que, par exemple, des personnes, nous, on l'a beaucoup vu sur la plateforme, notre plateforme Intention.
Les mots M-A-U-X, tu veux dire?
Les mots M-A-U-X. C'est marrant, mais il y a des personnes qui me disaient, moi j'ai toujours des migraines, mais moi je suis migraineuse. Voilà. En fait, on va toujours se donner un titre, je suis migraineuse. Mais personne n'est migraineux, on n'est pas né migraineux. La migraine vient de quelque part. Et c'est vrai que c'est de là qu'on avait commencé avec Claudie, à l'époque, de faire tout ce qui était les chroniques naturaux, où on prenait une pathologie, et elle a décrypté, que ce soit niveau qu'est-ce que ça se passe, comment ça se passe dans le corps, niveau symbolique, et les solutions apportées. Et donc ces chroniques, elles ont énormément aidé nos membres sur Intention, parce que quand c'était la chronique sur la migraine, bah, des personnes qui se rendaient même pas, et même moi, j'ai appris beaucoup de choses, alors que moi, je suis pas migraineuse, par exemple, mais je savais pas que, par exemple, une migraine, moi, j'entends plein de gens dire à chaque fois, moi, je suis migraineuse. Mais ça veut dire quoi, je suis migraineuse? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on pense qu'on est migraineux? Et surtout, c'est quoi la symbolique? Et c'était hyper intéressant. Pareil pour les personnes qui disent, moi, de toute façon, j'ai toujours des mycoses. Je suis quelqu'un qui a toujours des mycoses. Non mais pourquoi? Plutôt que banaliser les mots, peut-être essayer de comprendre leurs origines. Et très souvent, quand on le comprend, et ben ça permet de, ben justement de rééquilibrer. Moi, quand on m'a commencé à me dire que la maladie de Crohn, quand ce monsieur, le médecin m'a dit, la maladie de Crohn, c'est souvent une maladie des personnes très stressées, très anxieuses. On va donc travailler sur votre angoisse, d'où les probiotiques, on va réensemencer. Et mais comment j'aurais pu penser qu'un jour, le fait de réensemencer mes intestins ferait que j'ai plus d'angoisse? Pour moi, ça n'a pas de sens. Et en fait, si, ça a un sens. Donc, les chroniques, elles sont disponibles sur notre site Intention. Il y en a plein, la mycose, les migraines.
La peau. La digestion.
Il y en a tellement que je ne me souviens pas, mais... Essayons vraiment, tous ensemble, main dans la main, de ne pas banaliser les mots, parce que c'est trop facile de dire « je suis comme moi », je disais « moi j'ai mal au ventre depuis toujours ». Oui, j'ai mal au ventre. Moi, je suis comme personne comme ça. Je vais très souvent à la selle, moi. C'est comme ça. Mais en fait, ça m'aurait peut-être fait gagner du temps que d'apprendre. Mais après, c'est tout le parcours d'une vie, hein, donc il n'y a pas de souci. Ça m'a mis 8 ans, mais je remercie ce parcours-là. Hein.
Après, c'est vrai qu'on n'est pas dans on est dans une société... qui n'invite pas à agir sur soi, à s'introspecter. On est bizarre, on est des personnalités bizarres dans la vie de tous les jours. On est des personnalités bizarres qui cherchons à se comprendre. Une personne, c'est plus facile de dire j'ai un cancer, mais il vient d'où? Alors attention, pareil, je dis pas que t'as un cancer parce que non. Je dis que quand même, la société dans laquelle on vit, nous, gens qui vivons dans des sociétés occidentalisées, très industrialisé, très no pain no gain, très productivité à fond, surconsommation tout le temps. En fait, on est totalement en déséquilibre. On fait des choses parce qu'on doit les faire. Apparemment, il faut un CDI pour être heureux, il faut une maison avec un chien, etc. Mais quand on a ça, alors que ça ne nous parle pas à nous profondément, là, il y a un déséquilibre qui se crée. Et donc là, on se perd. Donc soit on est des personnes comme Isadora et moi qui allons essayer de toujours chercher cet équilibre. Soit on est des personnes qui on se perd pendant des années et encore, peut-être qu'à 60 ans tu fais soit une truc de dire bah je quitte tout, femme, enfant, etc. Soit je sais pas, il y a plein de possibilités pour au bout d'un moment quand le déséquilibre il est tellement à un point que ça rompt en fait. Donc soit c'est ton corps qui rompt, soit c'est ton cerveau qui va dire non, il y a quelque chose qui va pas.
C'est ça que moi je pense que ces épisodes là comme je fais aujourd'hui avec Marisa, ce serait plutôt de n'attendez pas quelque part le drame pour pouvoir rééquilibrer vos vies si vous le sentez aujourd'hui qu'il y a besoin d'un nouvel équilibre. Si j'avais su plus tôt que... avec des si, on refait le monde. Mais si j'avais su plus tôt que la vie parisienne, le stress, le brouhaha me causerait autant de dommages, bah, je me serais épargné ça. Mais ça, à l'époque, on n'en parlait pas de tout ça. Donc,
N'oublions pas que nous sommes des animaux quand même qui devons vivre dans la nature et dans un équilibre, dans une harmonie, et que le monde qu'on nous propose aujourd'hui n'est pas en harmonie. Donc, nous, on crée un déséquilibre, mais qui est complètement inconscient. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas de déséquilibre. Sur le coup, toi, tu penses que tu vis ta best life jusqu'à un moment donné où, ah, t'as quelque chose qui se passe, en fait, dans ta vie qui fait comprendre que tu es en déséquilibre. Donc, c'est important de revenir à soi. C'est important de bouger. C'est important, dans cette conclusion que Isadora, de rééquilibrer son alimentation. Il n'y aura pas de... L'un ne va pas sans l'autre, de toute manière. Mouvement, alimentation... connaissance de soi. Donc, on vous invite grandement à aller écouter certaines chroniques qui peuvent vous parler, en effet.
Donc, je disais, les chroniques, vous avez la constipation. Ça aussi, il y a tellement de membres qui nous disaient, moi, je suis tout le temps constipée. Le mouvement, bien évidemment, l'importance et pourquoi c'est important de bouger au-delà de juste perdre du poids. Hein. Là, on est vraiment sur le mouvement dans le sens premier du terme. Pourquoi, nous, en tant qu'être humain, nous devons bouger. Vous avez le cœur, travailler sur ses émotions, l'enfant intérieur, qui était absolument passionnant, la charge mentale, le lâcher prise, et tout ça, le sommeil, les personnes qui sont insomniaques, par exemple, c'est hyper intéressant.
Ça donne quand même plein de pistes au fur et à mesure, quand on les écoute, pour agrémenter dans sa vie des petites choses qui, au fur et à mesure, mises bout à bout quand on les a, parce que le but, c'est pas de tout mettre d'un coup en place, ça sert à rien, c'est de mettre une chose qui nous parle en place, et mis bout à bout, au bout de 8 ans, bientôt le programme dans 8 ans sort, un programme sur 8 années. Attends,
promis.
Là, on vous sort un programme.
Dans 8 ans, on vous sort un programme sur 8 ans.
Non, on sort bientôt le programme, là, d'ici 2023. Par contre, on se donne pour les résultats finaux dans 8 ans.
Dans 8 ans. Comme ça, voilà. Coup, on peut disparaître entre-temps, mais au moins, c'est 8 ans.
On a pris les sous-sous. Oui. Tout. Mais pour vous dire que, mis bout à bout, toutes ces petites pistes, tous ces petits trucs qui vous parlent, ça pourra certainement vous faire du bien. Et nous, là, je pense que tout ce qu'on a dit déjà, ça peut déjà vous aider à comprendre. Les personnes qui ont la maladie de Crohn, ce serait intéressant que vous veniez nous voir sur Instagram pour nous dire, eh bien, tout simplement, comment vous le vivez. Est-ce que vous pensez que ce qu'Isadora a dit, ça vous parle? Est-ce que vous avez jamais pensé qu'il y avait un lien potentiellement entre votre maladie et des émotions? Parce que nous, on rappelle que la personne que l'on connaît qui nous a annoncé récemment qu'elle avait la maladie de Crohn, elle n'avait pas forcément fait de lien. Quand Isadora lui a expliqué d'où venait sa maladie de Crohn, qu'elle a fait, mais moi, j'ai été très, très angoissée quand j'étais petite pour des raisons X, Y, Z. Et que depuis, je n'ai jamais été la même petite fille. D'accord. Et quand on lui demande, mais toi, tu t'aimes bien vivre à Paris? Ah, pas du tout. Qu'elle a qu'une envie, c'est retourner vers Nantes, là où elle vit. Mais que son métier fait qu'aujourd'hui, elle doit être à Paris. Mais que ça ne lui convient pas du tout dans son côté très stressé. Elle, c'est quelqu'un qui aime le rythme très lent. Donc là, vous voyez, elle est toujours en déséquilibre. Elle sait, en fait, elle a compris que cet équilibre parisien n'est pas pour elle, qu'elle doit repartir. Pour l'instant, elle vit comme ça, donc pour l'instant...
Et ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai eu la phlébite, plus la maladie de Crohn, et elle, souviens-toi, c'était l'eczéma.
Ah voilà.
Donc on lui avait envoyé la chronique sur la peau.
Voilà.
Pour qu'elle puisse, la chronique à Naturo sur la peau, pour qu'elle puisse comprendre que l'eczéma, que pour elle, c'est... Moi, j'ai quelqu'un qui a l'eczéma.
Non.
J'ai toujours l'eczéma. Non. Vraiment, je lui avais envoyé direct en rentrant, prends cette chronique sur la peau, je te l'offre, parce qu'il faut absolument que tu ailles voir plus loin que juste... Je suis quelqu'un qui a l'eczéma. Mais c'est pas. Là, vraiment, il n'y a pas de. On jette la pierre. Il n'y a pas de jugement parce que. Il m'a fallu 8 ans pour cheminer à ce niveau-là. Et j'avoue qu'un épisode comme ça, à l'époque, si ça avait existé, les podcasts à l'époque, j'aurais adoré me dire. En fait, je pourrais aller plus vite. Je pourrais aller voir directement quelqu'un et me dire. Attends, je vais voir une micronutritionniste et on va pouvoir peut-être apprendre ensemble à rééquilibrer. À l'époque, non, j'ai appris seule. Et au fur et à mesure des expériences et des rencontres. Mais voilà, on espère en tout cas que cet épisode vous permettra, quelle que soit votre pathologie, d'y voir plus clair aussi sur nous ne sommes pas qu'un mal, qu'il y a d'autres choses à prendre en compte pour espérer guérir pour toujours, ou en tout cas pour avoir une vie beaucoup plus sereine.
Merci Isadora pour ce témoignage.
Merci à toi pour tes questions très pertinentes.
Oh, bah avec plaisir, merci. Sur un épisode qui n'est pas travaillé comme d'habitude. Hein,
pas du tout.
On y vient, nous, comme on est. Hein,
et moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'était hyper brouillon?
Non. Là, Isadora, je pense que là, il faut arrêter de se jeter la pierre. Ouais. Mais là, je pense que non.
Qui a la ref?
Ça va, nous avons fait un épisode, je pense, brillant. N'importe quoi. Non, bref, en tout cas, il est là, il existe, il a le mérite d'exister. Vu que c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre, puisque la première fois, nous avons eu un problème de carte SD, j'espère que celui-là, vous l'aurez écouté, on vous aura accompagné pendant
1h09.
On vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe où vous êtes, et on se dit bien, très bientôt.
À très bientôt.
À plus.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.